Alors bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour rencontrer deux grands messieurs de la littérature. Vous les aurez déjà reconnus, mais par acquis de conscience, je vous les renomme. Vous aurez bien sûr reconnu Xavier Deutsch et Jean d'Ormesson. Alors je sais bien que Sophie Fontanelle était censée venir. Malheureusement, elle est dans la capacité d'être là ce soir. Mais je remercie quand même chaleureusement les deux auteurs qui sont là d'être venus et d'avoir pris de leur temps pour être avec nous ce soir. Alors, en cette période de rentrée littéraire, on va bien sûr présenter leur actualité. Dans le cas de Xavier Deutsch, ce sera une belle histoire d'amour qui finit bien. Et dans le cas de Monsieur Jean d'Ormesson, ce sera une chose c'est une chose étrange à la fin que le monde. Alors, avant d'aborder la rentrée littéraire proprement dite, j'aimerais tout d'abord vous présenter nos deux auteurs, retracer très brièvement, je vous rassure, leur parcours et leur actualité. Alors, Monsieur Jean d'Ormesson, vous l'aurez reconnu, c'est un grand homme de la littérature, un homme de lettres émérite, grand officier de la Légion d'honneur, si je ne m'abuse, académicien depuis 1973, et surtout auteur d'une quantité de livres. Alors, c'est surtout son dernier opus qui nous intéresse, évidemment. Celui-ci, c'est une chose étrange à la fin que le monde, dont le titre, me semble-t-il, résume déjà... Je vois que ça fait du succès, résume déjà tout le contenu et également toute l'intention du livre. Parce que j'ai vraiment eu l'impression, en le lisant, que vous aviez une espèce d'intention de réconcilier deux grands contraires, deux vieux ennemis en vérité. Le titre est un vers d'Aragon, et dans ce titre même, qui est un morceau de littérature, il y a déjà toute l'idée du livre qui est d'expliquer le monde, de revenir sur son parcours, etc., ben justement pour essayer de décrypter l'énigme. Alors ce faisant, en essayant d'assimiler littérature et science, puisque c'est le parcours que nous suivons, il y a aussi le désir de réconcilier réel et fiction, et finalement, nous le verrons, l'empirisme et le mystère de Dieu. Alors, en m'entendant dire ça, vous devez vous demander, mais est-ce vraiment un roman ? C'est la question que je me suis posée tout au long du livre, parce que j'avais vraiment l'impression d'une frontière très ténue entre l'essai littéraire, un traité de vie qui nous donne vraiment des conseils pour bien avancer, des valeurs essentielles, et en même temps une vraie méditation métaphysique. Parce que non seulement on a l'épreuve d'une érudition sans faille, on revient sur tous les grands parcours, toutes les grandes civilisations, tous les grands événements scientifiques qui ont permis au monde d'être décrypté par les hommes, de lui donner des repères qui lui permettent d'avancer. Mais en même temps, le roman lui-même, me semble-t-il, et M. d'Ormesson pourra peut-être me répondre, certainement, répond à la méthode dialectique qui est fondamentale en philosophie. Parce que j'avais vraiment l'impression que votre ouvrage contenait trois termes. Le premier qui est composé, vous le verrez en le lisant, du fil du labyrinthe, où le narrateur tente d'expliquer l'énigme du monde en revenant sur toutes les grandes étapes qui l'ont jalonné. Et donc là, il pose les faits un petit peu à la manière d'une thèse. Ensuite, dans le rêve du vieux, c'est à Dieu que revient la parole et d'une façon très ironique, je trouve, il répond à toutes ces assertions des hommes en expliquant que oui, il pense avoir de grandes évidences, il pense tout connaître ou tout savoir sur certains sujets, mais en vérité, ils n'en connaissent qu'une moindre partie, et le reste reste un grand mystère. Donc là, il y a vraiment le phénomène de l'opposition et de l'antithèse. Et finalement, dans la troisième partie, qui est la plus personnelle, c'est Monsieur Jean d'Ormesson lui-même qui... en une série de réflexions mises bout à bout, de pensées un peu éparses, justement, dépasse un petit peu cette opposition et montre que si la science donne certaines pistes, Dieu lui-même est une énigme, en fin de compte, qui pourrait les résoudre. Et il a une très jolie phrase que j'aimerais vous lire, qui, me semble-t-il, résume très bien la chose, et qui est... Dans le cœur des hommes, il y a un élan vers autre chose qu'un savoir qui ne suffira jamais à expliquer un monde dont la clé secrète est ailleurs. Donc je trouve que justement, c'est vraiment toute la portée à la fois théologique, métaphysique et scientifique qui sont au cœur de toute expérience humaine que M. Jean d'Ormesson tentait d'expliquer. Est-ce que je me suis complètement trompée ou pas ? Oui, j'espère. Attendez, je vérifie qu'il soit bien allumé.
Vous m'entendez ? Tant pis pour vous. Eh bien, mademoiselle, on m'a dit en entrant, je ne sais pas qui m'a dit, que vous étiez intimidée.
C'était le cas.
Pas par moi, je pense, mais probablement par l'assistance. Eh bien, je voudrais vous dire qu'il y a peu d'analyses de mon livre qui m'est paru aussi sympathique d'abord, je vous remercie, mais aussi intelligente que la vôtre. Vous avez dit merveilleux. Vous avez dit merveilleusement ce que j'ai essayé de faire. Et ce livre, je dois vous dire, a été accueilli de façon très bienveillante.
J'ai cru le comprendre.
Très bienveillante. Il y a un des dirigeants de l'extrême gauche française qui s'appelle Mélenchon, avec qui c'est le patron du Front de Gauche, et avec qui je suis passé à la télévision, et qui a parlé avec enthousiasme de mon livre, vous voyez. Et il y a des gens qui m'ont fait des réflexions très étranges. Les uns m'ont dit, naturellement, vous êtes incroyablement partial en faveur de Dieu. Les autres m'ont dit, tiens, on ne savait pas que tu étais devenu athée. Mon livre, je ne crois pas du tout que ce soit un livre d'athée. Vous avez admirablement expliqué ce qu'est ce livre. Je n'en suis pas surpris, je suis dans un endroit qui respire l'amour des livres et l'amour de la littérature. Et je dois vous dire, pas seulement l'amour des livres. On m'a donné ici un petit dîner que j'ai trouvé absolument délicieux, qui est dû à quelqu'un qui s'appelle Olivier, et qui est un traiteur que je vous recommande absolument. Vous n'êtes peut-être pas venu, vous êtes peut-être venu plutôt pour parler de livres, mais moi je vais vous parler du gazpacho d'Olivier, qui est absolument délicieux. Alors maintenant, cela dit, revenons au livre. Oui, vous en avez très bien parlé. En général, on me demande de parler 10 minutes. Je dis non, je parlerai seulement 5 minutes. Et je parle 1h15. Alors, il vaut mieux que je m'arrête. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai constaté que Dieu, qui règne sur l'univers depuis assez peu longtemps, l'idée de Dieu est une idée récente. L'univers a quelque chose comme 13 milliards 700 millions d'années. Les hommes tels que nous sommes ont quelque chose comme 200 000 ans. Les hominidés ont quelque chose comme 2 millions d'années. Dieu apparaît il y a 5 000 ans, il y a très peu de temps. En même temps, à peu près, que l'écriture. Les hommes primitifs ne croient pas à Dieu. Vous savez que les hommes primitifs croient à la magie. Et ensuite, ils croient à des panthéons de dieux innombrables, les innombrables dieux de la Mésopotamie, les milliers de dieux de l'Inde, les dieux animaux de l'Égypte, et le panthéon grec et latin. Et Dieu apparaît au moment où apparaît à peu près l'Écriture, c'est-à-dire il y a 5000 ans, 3000 ans avant le Christ, avec Abraham, si Abraham a existé. Mais depuis cette époque, sous la forme chrétienne, sous la forme juive, sous la forme musulmane, 6 siècles après le Christ, Dieu règne. Et tout le monde croit en Dieu. Copernic est prêtre, il est chanoine. Galilée est catholique, puisqu'il passe devant le tribunal de l'Inquisition. Newton croit à Dieu. Le grand drame, c'est Darwin. Darwin, qui est un personnage très attachant, qui voulait devenir pasteur, découvre l'évolution et à contre-cœur, abandonne sa foi pour découvrir l'évolution. Et à ce moment-là, se déclenche la grande offensive anti-Dieu. Darwin, Nietzsche, Feuerbach, Marx, voilà les ennemis de Dieu. Et ce livre, au fond, si j'ose dire, essaye de rendre ses chances à Dieu. Personne ne croit plus aux preuves de l'existence de Dieu. Le pari de Pascal, qui est une page admirable, le pari de Pascal ne convainc que ceux qui croient déjà. Je n'ai jamais vu des athées convertis par le pari de Pascal. L'argument ontologique, qui a un nom un peu barbare, ou argument de Saint Anselme, et qui est assez simple, Dieu est parfait, la perfection suppose une existence, donc Dieu existe. Eh bien, cet argument a été détruit admirablement par Kant, qui dit « ce n'est pas parce qu'on s'imagine quelque chose de parfait ». Et je peux rappeler ici, devant cette assistance, l'argument de Kant qui dit « il y a quand même une différence entre Santaler réel et Santaler imaginaire ». Eh bien, l'argument de Saint Anselme est absolument détruit par Kant. Mais j'ai lu un livre d'un personnage qui s'appelle Dawkins, qui est un livre qui a été publié à quelques dizaines de milliers d'exemplaires en France et en Belgique, mais à des millions d'exemplaires dans le monde entier, qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu ». Eh bien, « Pour en finir avec Dieu » est exactement parallèle à un catéchisme. D'un côté, les gens qui savent que Dieu existe, de l'autre côté, les gens qui savent que Dieu n'existe pas. Eh bien, moi, je suis comme la majorité des gens, je ne sais pas. J'ai été élevé dans la religion catholique, je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que j'ai essayé de remplacer la foi par l'espérance. Eh bien, je crois que la science ne peut pas prouver Dieu, naturellement, mais elle ne peut pas prouver non plus l'inexistence de Dieu. Dieu est une espérance et j'espère que Dieu existe.
Merci.
L'espérance est une vertu cardinale, me dit mon voisin. Bien sûr, il y a deux formules qui sont, je crois qu'aucune des deux n'est dans mon livre. L'une est une formule juive que j'aime beaucoup. Ce sont deux rabbins qui discutent entre eux, et vous savez que les rabbins parlent souvent très librement. Et l'un dit à l'autre, ce qu'il y a de plus important, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. J'aime beaucoup les histoires juives. Enfin, je vais vous raconter les histoires juives parce qu'on est là jusqu'à... Je n'aime pas les histoires ignobles, antisémites, mais les grandes histoires juives, je les aime beaucoup. J'ai le temps ?
Allez-y.
J'aime beaucoup l'histoire juive du grand rabbin qui sort de l'enterrement d'un Rothschild et qui a parlé à l'enterrement. Il est entouré de ses deux assistants. Il y a le cocher qui est devant. Et le premier assistant dit au grand rabbin, « Rabbi, tu as été admirable, tu as été tellement bon, c'était si beau ce que tu as dit. » Et le deuxième dit, « C'était admirable. » Et le grand rabbin dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis, moi ? Je ne suis rien du tout. » Et le premier assistant dit, « Mais Rabbi, si toi tu n'es rien, qu'est-ce que je suis, moi ?» Et le deuxième assistant dit, « Ah, arrêtez, si le grand Rabbi n'est rien, si l'assistant n'est rien, mais qu'est-ce que je suis, moi ?» Et à ce moment-là, le cocher arrête son cheval, tourne sa tête vers le Rabbi, les larmes lui coulent dans les yeux et dit, « Rabbi, si le premier assistant n'est rien, si le deuxième assistant n'est rien, si toi, Rabbi, tu n'es rien, qu'est-ce que je suis, moi ? Je suis moins que la poussière de mes souliers. » Et le Rabbi dit, « Non, mais pour qui se prend-il, celui-là ? » Et la deuxième formule que j'aime beaucoup, c'est une formule chrétienne. C'est la formule d'un père de l'Église, « Ma foi est la forme de mon espérance. »
Alors, comme vous parlez de Balag, ça tombe très bien, ça me fait une parfaite transition pour parler de Xavier Deutsch, qui, face à notre éminent auteur français, est un auteur belge, mais de ceux qui sont connus au-delà de nos frontières, ce qui n'est pas tellement courant. Mais il faut dire que vous aviez derrière vous une carrière de plus de 20 ans, si je ne me trompe, puisque votre premier roman remonte à 89. et de nombreux prix littéraires, dont le prix Russell, s'il vous plaît, pour La Belle Étoile. Alors, si je parle de blague, c'est pas du tout dans un sens péjoratif, mais c'est parce que dans votre dernier roman, donc Une belle histoire d'amour qui finit bien, qu'on aurait d'ailleurs pu intituler Une belle histoire d'amitié qui finit bien, il y a vraiment ce thème de l'amitié qui revient très fort. Un thème qui apparaissait déjà dans nombre de vos romans précédents, dont Les garçons, un livre qui est publié en jeunesse. Et si j'en parle, c'est parce que dans ce roman, vous allez voir, on suit les tribulations d'un trio. Deux garçons et une fille qui sont amis de longue date, qui se voient toutes les semaines, qui discutent de tout et de rien, et qui sont toujours prêts à se venir en aide. Évidemment, c'est ce qui va se produire, puisque les uns et les autres vont se mettre dans des situations complètement impossibles, assez dangereuses, et que finalement, ils vont un peu s'en dépêtrer à la manière d'un jeu, comme si c'était une bonne farce. Et j'y pense parce que dans le roman Les garçons, qui est un roman de jeunesse mais qui a reçu le prix Maeterlinck, il y a vraiment ces codes de la jeunesse qui reviennent dans votre nouveau roman. Les codes de la jeunesse ou au goût de l'enfance, on peut dire, parce que déjà il est très présent chez vos personnages qui sont un petit peu des éternels adolescents, j'ai l'impression. Ils ne vieillissent pas, ils ont toujours ce même esprit juvénile, ce même goût pour l'insouciance, pour les défis, pour le goût du risque et la joie de vivre. Et en même temps, votre langue elle-même est très tonique, très pétillante, très dynamique. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai souvent lu dans les critiques que j'ai lues à votre sujet. Et je me demandais si justement vous aviez espéré dans ce livre faire une espèce de transposition adulte de tous nos jeux d'enfants. Comme si on avait l'occasion de retrouver son enfance, ou en tout cas cette espèce de liberté qui la constitue, en rejoignant avec les codes qui la constituent, donc l'insouciance, la joie de vivre, la liberté totale et absolue.
Merci. Bonsoir. Comme c'est une question difficile, je vais... Ça marche, oui. Comme c'est une question difficile... Je vais me donner le temps d'y réfléchir et de réfléchir à la question que je vais vous fournir. Et merci, j'ai un verre. Merci. Et je voudrais simplement commencer par vous dire que je suis vraiment ravi de me trouver là, que je remercie Marc Philipson de l'accueil qu'il nous fait. Je suis ravi et un tout petit peu intimidé aussi de me retrouver auprès de Monsieur Dormesson.
Je ne suis pas la seule. Donc.
Voilà. Et à son propos, tout à coup, il y a une petite pensée qui m'est venue. Et puisque vous semblez amateur de formules, je vous en renvoie une. Puisque vous avez évoqué le fait qu'en ayant lu son livre, certains commentateurs avaient livré une série d'opinions, et notamment celle-ci. Il y en a un, d'après ce que vous disiez, qui avait dit que M. Dormesson semblait, dans son ouvrage, partial envers Dieu. J'ai envie simplement de retourner la formule et de vous dire qu'à mon avis, Dieu est partial envers M. Dormesson et en votre faveur. Et je suis vraiment heureux et privilégié de prendre ici la parole à ses côtés. Si, vraiment, écoutez, voilà. Tombons les masques. Pour parler de ce roman à propos duquel vous m'interrogez, pour me demander si j'ai eu l'intention... Dans le cours de ce récit, de rejouer les codes. Lorsque j'entame l'écriture d'un roman, je n'ai aucune intention. Je ne prémédite rien, je ne prévois rien. Je n'ai nulle autre intention que celle d'écrire un livre et de m'y prendre en laissant à mon livre le plus de liberté, le plus d'autonomie, le plus d'initiative possible, en essayant de lui imposer le moins possible mon propre projet, mes propres intentions. Je comprends qu'il y a quelque chose parfois d'un peu difficile à entendre, ce genre de démarche, mais je vous assure, je le dis avec sincérité, j'ai vraiment l'impression que la littérature procède d'une manière de considérer le langage qui n'est pas la manière habituelle de considérer le langage. Je pense que le langage littéraire... procède d'une manière extrêmement particulière d'envisager les choses. Et curieusement, figurez-vous, enfin, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais après tout, c'est vous qui m'en donnez l'occasion. La manière que j'ai de considérer la littérature résulte d'un syllogisme qui est le suivant. On a déjà beaucoup évoqué Dieu, je vais continuer. Parce qu'après tout, il fait quand même partie de notre culture, et pour les croyants que sont certains d'entre nous, ce syllogisme a une valeur émotive. Et pour les non-croyants, il a une valeur intellectuelle qui me paraît en tout cas tenir la route. Quelle est la suivante ? C'est qu'au commencement du livre de la Genèse, Dieu crée le monde. Et Dieu crée le monde en le proférant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est donc en parlant l'univers que Dieu le crée. C'est la parole de Dieu qui aboutit à la création de l'univers, des astres, de la planète. Dieu dit que les eaux du dessus se retirent des eaux du dessous et ainsi cela fut ainsi. Donc la parole de Dieu qui crée matériellement, enfin selon ce qu'en dit la Genèse. Et à la fin de cet épisode, Dieu créa l'homme à son image. Alors le syllogisme est le suivant. Dieu crée au moyen du langage. Or, Dieu crée l'homme à son image. Donc, nous sommes fondés à croire que si l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme dispose, dans une certaine catégorie de langage, de la même capacité de créer des mondes. Je pense que la capacité de créer un monde au moyen du langage est une capacité infiniment ancienne qu'on retrouve dans pas mal de traditions sur toutes les parts de la planète, que ça soit du côté de la Kabbale juive, que ça soit du côté d'anciennes traditions hindouistes, que ça soit l'ancien alphabet scandinave des runes, qui est composé de caractères, dont les anciens scandinaves, d'un alphabet auquel les anciens scandinaves donnaient une fonction réparatrice, créatrice, en tout cas effective. Au moyen de l'alphabet runique, les anciens scandinaves arrivaient à des résultats matériels qu'on pouvait palper. Ils obtenaient la victoire dans un combat, ils obtenaient la victoire amoureuse auprès d'une femme qu'ils convoitaient, ils guérissaient des blessures au moyen d'un alphabet. C'est le cas, c'est le fondement même de la Kabbale, que d'avoir un travail sur le réel fondé sur le langage et sur les consonnes de l'alphabet hébraïque. Bref. Donc, il y a une très très ancienne vérité qui est dite sur le langage et qui investit le langage d'un pouvoir. Moi, je pense que dans la civilisation qui est la nôtre, cette capacité du langage, elle a été un petit peu oubliée. Elle a été un petit peu occultée, grosso modo, depuis Aristote et Platon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les anciens Grecs, les anciens philosophes présocratiques, les très anciens tragédiens qui étaient Eschyle et Sophocle, étaient investis de cette capacité particulière du langage. Arrivèrent Aristote et Platon pour faire émerger une nouvelle manière de réfléchir, pour plier le monde dans une catégorie, dans une série de catégories, et ils ont créé l'abstraction. Aristote et Platon ont fait arriver le langage à un différent... Enfin, je suis désolé, dans quoi je m'embarque, moi. Mais on me parlait d'un roman frivole et divertissant, et je vous embarque sur Platon et Aristote. Ce que je veux dire, c'est que depuis Platon et Aristote, le langage a été dessaisi et dépossédé d'une partie de ses virtualités, de ses potentialités. Le langage est devenu un moyen extrêmement commode, sur lequel je m'appuie pour vous parler, est devenu un moyen pour communiquer des informations. Le langage est devenu une abstraction, est devenu quelque chose qui nous permet d'échanger des concepts, des idées, des pensées, des informations entre nous, ce qui est absolument utile et hautement nécessaire, mais qui a distancié le langage de sa fonction d'origine. Et on a donc un langage logique qui permet, comme nous le faisons tous les jours, d'échanger des informations, et un langage analogique, infiniment oublié, dont la capacité était d'un autre ordre. Moi, je pense que les poètes sont des gens qui restent connectés à cette capacité de créer du monde avec du langage. Et le fantasme ultime de la poésie, ce n'est pas de désigner le réel, ce n'est pas de l'évoquer, ce n'est pas de le prononcer, c'est de le faire exister. Et que le jour où un poète arrive à son but et que dans son poème il fait exister du feu, le but ultime et le fantasme ultime du poète, c'est que si vous posez la main sur son poème, vous la retiriez avec vivement parce que vous vous serez brûlé. Parce que son poème ne se sera pas contenté d'évoquer le feu de manière abstraite, il l'aura fait exister. On en est loin, hein. Bon. Et donc, en l'occurrence, pour répondre à ce que vous disiez, je ne me suis pas dirigé vers l'écriture de ce roman avec une intention, si ce n'est l'intention de faire exister un roman. Mais de le faire exister en le faisant émerger de mon imaginaire comme lui, mon roman, allait avoir envie d'émerger. Et donc non, pas du tout, je ne me suis pas du tout intéressé à la question de savoir si j'allais ou si je n'allais pas renouer avec l'insouciance de la jeunesse. J'ai fait exister des personnages qui ont pris leur liberté, qui s'en sont emparés, qui ont pris les directions qui leur ont convenu. Alors, une toute petite réflexion, alors, mais qui n'est plus tellement la réflexion du romancier, mais plutôt de l'homme que je suis. À propos de la question de savoir si le jeu est une prérogative de l'enfance, moi j'espère et je pense que non. Je suis très attaché à l'idée que les adultes ont le droit de jouer, qu'ils ne retombent pas en enfance pour autant. Je pense que le jeu est un des privilèges de l'humain, est un des paramètres qui nous distingue de l'animal et certainement du bestial. Et je ne pense pas que l'adulte qui joue redevienne un adolescent ou un enfant pour autant. Je suis assez prévenu contre l'idée qui voudrait que nous ne sauverions notre âme d'adulte qu'en protégeant notre âme d'enfant. Moi, j'ai 45 ans, j'espère être arrivé à une certaine, sinon maturité, du moins stabilité. Enfin, j'espère pouvoir me qualifier d'adulte, j'espère avoir laissé loin derrière moi mon enfance, sans nostalgie, sans mélancolie, j'espère avoir laissé loin derrière moi mon adolescence et être un adulte en pleine possession de ses moyens, ce qui ne signifie pas que je sois un être racraboté, flétri, fané. Je suis heureux et fier d'être un adulte et je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui.
Vous avez laissé loin derrière vous votre jeunesse. Moi, je reprendrai plutôt le mot de Chateaubriand, qui, déjà un peu âgé, monte l'escalier vers sa dernière maîtresse, qui s'appelait Hortense Allard, et qui s'arrête au milieu de l'escalier et qui dit « Ah, si j'avais encore mes 60 ans !» Eh bien, je pensais bien que la réunion ici, on me l'avait dit, serait intéressante, mais je ne pensais pas que ce serait aussi bien que ce soir. D'abord, vous avez été merveilleuse, mademoiselle, et vous avez été formidable. Et je voudrais dire trois choses là-dessus. Une chose sérieuse, une chose amusante, et vous poser une question. La chose sérieuse, naturellement, vous avez raison, sur Dieu et le langage. Vous n'avez pas prononcé un mot qui est capital. Dieu, c'est le Verbe. Dans l'évangile de Saint Jean, Dieu, c'est le Verbe. Et le Verbe, en grec, se dit « logos », et « logos », c'est la parole. Dieu est parole. Et « poète » vient du grec « poiein », et le grec « poiein » veut dire « faire ». Le poète est celui qui crée. Et votre comparaison entre le poète et Dieu est évidente. L'un et l'autre créent un monde. La chose amusante, vous avez parlé des caractères runiques. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont été à Venise. Qui a été à Venise ici? Oui, presque tout le monde a été à Venise. Peut-être que vous êtes allé devant l'arsenal. Devant l'arsenal, il y a quatre lions. Sur deux de ces lions, il y a des inscriptions bizarres. Si vous les regardez attentivement, si vous retournez à Venise, vous penserez à cette soirée et vous les regarderez un peu attentivement. Sur ces lions, il y a des caractères qui sont des caractères runiques. Comment, devant les lions, devant l'arsenal de Venise, comment y a-t-il des caractères runiques? Et l'explication est que les lions de Venise ont été pris par Venise lors de la fameuse quatrième croisade, au moment où la croisade s'est détournée de Jérusalem pour aller attaquer à Constantinople, ce qui était violent, mais Constantinople était riche. Et vous savez, en 1204, la quatrième croisade, sous la direction de Dandolo et de quelques autres, de la ville de Hardouin pour les Français a pris Constantinople. Et les Vénitiens ont volé des lions byzantins qui sont maintenant devant l'arsenal de Venise. Et ces lions avaient longtemps été devant Sainte-Sophie. Et au moment où les Vikings s'emparent de la Normandie, avant de s'emparer via les Normands de l'Angleterre et via les Normands de la Sicile vers 1060, eh bien les Vikings, sous le nom de Varegs, avaient descendu les fleuves de Russie. Et il y avait eu une grande bataille où les Varegs, après avoir créé la Russie, le chef des Varegs s'appelait Russe, et Russe a donné son nom à la Russie. Il a fondé Kiev et il a donné le nom à la Russie. Il y a eu une grande bataille où les Varegs, qui étaient donc des Vikings, ont été battus par l'empereur de Constantinople. Et les prisonniers Varegs étaient à Constantinople et ils étaient... Ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient prisonniers, et quelques-uns d'entre eux ont gravé des petits poèmes mélancoliques sur leur destin cruel, sur les lions de Byzance qui ont été volés par les Égyptiens et qui sont maintenant devant l'arsenal de Venise. Et la question que je voulais vous poser, que vous n'aviez aucune intention en commençant votre livre. Est-ce que vous saviez où vous alliez ou vous ne saviez même pas où vous alliez ? Je connais les deux façons de procéder. Mon ami Jean Dutour prétend qu'il commence un livre sans savoir absolument ce qu'il va faire. Et j'ai d'autres amis qui, au contraire, comme Martin Dugard, quand il écrit les Thibauts, ont d'innombrables fiches, savent ce qu'il y aura dans le deuxième chapitre, dans le troisième chapitre, dans le quatrième chapitre. Il y a donc toutes les modalités. Comment procédez-vous ?
Vous vous rendez compte qu'on a auprès de nous quelqu'un qui nous dit « Mon ami Martin Dugard ». Hier encore, mon ami Flaubert me disait d'ailleurs... J'aimerais bien, mais je ne peux pas.
Vous savez bien que la Montespan, j'ai très bien connu la Montespan.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, écoutez, curieux... Ah non, je suis plutôt de ceux qui entament un roman en n'ayant pas la moindre idée, non seulement de la manière dont il va se terminer, mais la moindre idée de ce que mon roman sera, deux pages au-delà de celle que je suis en train d'écrire. Et cependant, et c'est ce qu'il y a de curieux, c'est que plus je laisse la bride sur le cou de mon roman, plus je le laisse libre de prendre l'initiative et d'imprimer sa direction, meilleur il sera. Moins j'interviens, meilleur il est. Moins je le guide, plus cohérent il sera. C'est que j'ai l'impression que l'intelligence humaine est grand chose. L'intelligence humaine est un outil extraordinaire. L'intelligence humaine est capable de construction et d'élaboration magnifique. Je pense que l'imaginaire humain est plus fructueux, plus inventif et plus étonnant encore. Et lorsque j'écris un roman, je m'en remets à mon imaginaire davantage qu'à mon intelligence. Mon intelligence langagière n'intervient que pour aider la chose à venir et à être mise au monde. Mon intelligence, ma compétence d'auteur intervient pour faire en sorte que la chose prenne forme, pour qu'une syntaxe, pour qu'un vocabulaire, pour qu'une conjugaison... Donne forme à cela. Mais l'essentiel du travail trouve ses racines dans mon imaginaire, qui est une espèce de part séparée de moi-même, qui est ce que saint Augustin appelle interior intimo meo, la part la plus intime et la plus intérieure de soi, à ce point intime et intérieur qu'on en connaît et qu'on n'en cerne pas les contours. Et donc, lorsque j'écris un roman, j'abdique de cette part. J'abdique du contrôle, je me livre à une espèce d'abandon et je m'en remets à mon imaginaire. Je lui fais confiance et je sais que C'est à lui que le travail revient. Alors en même temps, je ne vais pas vous donner l'impression que je suis sous l'effet d'un psychotrope ou que soudain, je me laisse aller à ce que les surréalistes appelaient l'écriture automatique. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je suis bien présente dans le travail qui s'effectue, dans cette mise au monde. Mais ma présence et mon contrôle n'agissent que pour donner forme. Ce qui est un authentique travail, c'est un labeur extrêmement exigeant et fatigant. Mais la chose elle-même émerge en m'étonnant moi-même. Et je l'écris et j'ignore la direction que mon roman prendra, deux pages au-delà. Et encore une fois, je le dis et je le répète, je suis étonné moi-même de voir à quel point le livre est d'autant plus cohérent que je n'ai pas maîtrisé sa cohérence. Un peu comme un enfant dans le ventre de sa mère. La mère n'intervient d'aucune façon. Elle ne se glisse pas dans son utérus et pourtant l'enfant viendra au monde d'une manière parfaitement structurée, bien mieux structurée que s'il avait fallu que la mère elle-même prémédite et contrôle chaque organisation du métabolisme de son enfant.
Oui, c'est très intéressant. Il y a toute une tradition qui va de l'écriture automatique des surréalistes à l'écriture ultra-moderne, ça écrit à travers nous, n'est-ce pas, et qui reprend une vue classique des choses. On demandait à Haydn, mais d'où est venue votre inspiration qui est si belle pour écrire la création? Et Haydn ne répondait pas, et il levait simplement son doigt vers le ciel. Alors voilà, peut-être que un démon travaille à travers vous.
Je suis tout à fait étourdie devant deux modèles d'érudition à ce point développés.